Donc ce soir, je continue dans ma série de messages sur les mystères du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mystères qui nous sont nommés et qui sont expliqués. Parce que dans la Bible, un mystère n'est pas fait pour rester mystérieux. Un mystère dans la Bible, c'est fait pour être révélé. Et Dieu nous révèle un certain nombre de mystères et ce soir, nous allons voir le mystère de l'iniquité. Donc on va commencer à lire, au verset 3, que personne de deux Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Le verset 7 nous dit donc, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il a déjà commencé son action, mais il ne se révélera pleinement que plus tard. Hein. Il dit, il est retenu pour l'instant, mais il commence déjà à agir, on pourrait dire, de façon secrète, ce mystère de l'iniquité. Alors, qu'est-ce que c'est? J'aimerais d'abord qu'on définisse ce mystère de l'iniquité. Et en fait, il faut le mettre en perspective avec un autre mystère dont on avait parlé une autre fois, qui se trouve en 1 Timothée 3,16. Je vais vous le lire. On va voir pas mal de versets bibliques ce soir. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Est-ce que vous vous rappelez qui est le mystère de la piété là? C'est Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ est appelé dans 1 Timothée 3,16 le mystère de la piété, notre foi a pour objet principal le Seigneur Jésus. C'est lui notre Sauveur, notre Seigneur, c'est lui le commencement et la fin de toute notre vie. Et le mystère de l'iniquité, c'est l'opposé, c'est l'adversaire de Christ. Le mystère de la piété, c'est Christ. Le mystère de l'iniquité, c'est l'antichrist. Il s'agit donc, dans le mystère de l'iniquité, d'une opposition à Christ, d'une opposition au Sauveur, au Messie. C'est ça le mystère de l'iniquité. Qui est cet opposant? Alors son nom est donné ici avec plusieurs synonymes, l'adversaire, l'impie, le fils de la perdition. Et puis, il y a en 1 Jean 2, 18, le nom le plus connu. 1 Jean, donc c'est la première épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Nous sommes à la fin des temps. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et en fait, ça vient d'un mot grec qui est antichristos. Et c'est malheureux qu'on ait mis antéchrist en français parce que ça devrait être antichrist. Antichrist, ça veut dire littéralement celui qui est à la place de Christ ou celui qui est contre. Mais c'est premièrement celui qui se met à la place. Anti, en grec, ça veut dire à la place de. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au temps de la Réforme, les protestants, quand ils parlaient du pape, ils disaient le pape, c'est le vicaire du Christ, n'est-ce pas? Vicaire, ça vient du latin, ça veut dire qui est à la place de Christ. Et les protestants disaient le pape, c'est l'antichrist à la place de Christ. Voilà. Et ici, Il est question d'un antichrist futur qui va se mettre à la place et qui sera l'opposé de Christ, une sorte d'ombre, hein, d'image, de négatif de Christ. C'est ça le mystère de l'iniquité. Le mot iniquité, hein, le mystère de l'iniquité, il faut aussi voir le mot originel en grec, anomia, qui veut dire littéralement sans loi, opposé à la loi de Dieu. Donc le mystère de la rébellion, on pourrait dire, hein, le mystère de la désobéissance absolue contre Dieu. C'est ça que nous étudions ce soir, le mystère de l'iniquité. Opposé à l'autorité de Dieu, qui ne reconnaît rien de Dieu, qui veut en toute chose s'opposer à Dieu. Et que dit la Bible ? Ce mystère agit déjà, et un jour il sera pleinement actif et révélé. Au verset 3 que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens, ce mystère est personnifié, hein, en un homme, qu'on ait vu paraître l'homme impie. Et là encore, c'est le même mot, l'homme sans loi. C'est exactement en grec le même mot. Et en français, ça n'apparaît pas parce que vous avez l'homme impie et l'iniquité de l'autre côté. Mais en fait, c'est le même mot, l'homme sans loi, le mystère de la sans loi, hein, du sans loi. Et le mystère de l'iniquité, c'est un homme, de même que Christ était le mystère de la piété, le mystère de l'iniquité sera un homme possédé par Satan, envoyé par Satan, et qui va se prendre pour Dieu, qui va demander qu'on l'adore comme Dieu, qui va se mettre à la place de Dieu dans le temple, hein, en Jérusalem, et qui va se faire passer pour Christ à la place de Christ. Il s'agit bien donc de l'Antichrist. Mais ce mystère agit depuis quand ? Puisqu'il dit, il agit déjà. Alors, bien sûr, il agit depuis que Christ est venu sur la terre. Quand Christ est apparu, Satan a essayé de le détruire. C'est pour ça que Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins pour éliminer le Messie. Il n'a pas réussi. Alors après, il est entré dans Judas, parce que Judas lui a ouvert son cœur pour l'argent. Et il a fait trahir Jésus par Judas. Et Jésus a été arrêté. Et Jésus a été condamné à mort. Et Satan a certainement pensé, ça y est, j'ai gagné, le Messie va être tué. Et il ne pourra plus sauver personne. Et en faisant cela, il ne savait pas que en mourant sur cette croix, le Messie souffrait pour nos péchés, selon les Écritures, selon l'Ancien Testament. Et qu'il, en fait, il était en train de gagner la guerre, la victoire sur cette croix. Et Satan était en train de perdre totalement la guerre. Mais le mystère de l'iniquité a commencé bien avant Christ. Et en fait, il a commencé avant même la création de l'homme. Le mystère de l'iniquité a commencé avec un archange, avec ce que la Bible appelle un chérubin protecteur. Ça vient de l'hébreu chérubim. C'était des anges qui gardaient la gloire de Dieu. Vous savez, si vous connaissez un peu le tabernacle de Moïse, dans le lieu très saint, il y avait un coffre qu'on appelle l'arche d'alliance. Sur ce coffre, il y avait un couvercle et Dieu avait demandé que l'on sculpte 2 anges sur ce couvercle avec leurs ailes, hein, comme ça, l'un vers l'autre et qui couvraient la Shekinah, la gloire de Dieu. Et ces anges, c'était bien les chérubins protecteurs. Or, la Bible dit que tout ce qui a été fait dans le tabernacle était une image de ce qui se passe au ciel. Et au ciel, il y a des chérubins protecteurs. Ce sont les anges les plus près de Dieu, les plus élevés. Ceux qui sont en contact direct avec la gloire indicible de Dieu, hein, parce que la gloire de Dieu est indicible tellement elle est lumineuse, sainte, absolue, personne ne peut résister. Hein, et les anges doivent se cacher la face et en même temps préserver cette gloire par leur présence. Et nous lisons dans la Bible l'histoire de ces choses. Mais avant de parler de cela, il y a une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le péché ? Après tout, Dieu est l'auteur de toutes choses, le créateur du ciel, de la terre, de l'univers. Comment expliquer que l'iniquité ait un jour commencé D'où vient le péché? Dieu peut-il être l'auteur du péché? Je vais citer ce porte-voix du nouveau calvinisme américain qui s'appelle John Piper. Il écrit dans un blog du 8 août 2008 « Un des points majeurs de mon prochain livre, c'est que le péché et la colère de Dieu contre le péché faisaient partie du plan de Dieu quand il a créé le monde. Ma raison principale de relever ce fait, c'est pour exalter au plus haut point la révélation de la grâce de Dieu par la crucifixion de Jésus. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu pèche ou qu'il approuve le péché. » Mais donc ce théologien est en train de dire que Dieu a conçu le péché pour ensuite sauver les hommes par la crucifixion de Jésus. Et donc que Dieu est l'auteur du péché pour se glorifier ensuite par la crucifixion de Jésus. C'est ça qu'il dit, hein, et il s'en vante, je veux dire, je ne suis pas en train de détourner sa pensée. Entre autres, oui. Alors là, pour nous, c'est inacceptable de dire que Dieu est l'auteur du péché, même s'il dit bien, Dieu est contre le péché, Dieu ne pèche pas, etc., Dieu est en colère contre le péché, que Dieu ait imaginé, tiens, je vais créer un monde où il y aura le péché pour ensuite magnifier ma gloire en donnant ma vie, c'est tordu. Voilà. Pour moi, c'est tordu. Alors que la Bible dit bien d'autres choses sur notre Dieu. C'est vrai qu'en Genèse 50, verset 20, Joseph dit que Dieu a changé le mal en bien. Il dit à ses frères, hein, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Et notre Dieu a la capacité extraordinaire de changer le mal en bien. Le mal qui était justement cette œuvre de Satan, hein, de corrompre l'homme et de l'amener au péché, Dieu l'a retourné par la croix pour en faire un bien pour l'homme. Hein. L'homme pécheur peut devenir saint et un enfant de Dieu s'il croit en Christ. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a créé le mal pour le changer en bien. 1 Jean chapitre 1 verset 5 dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. » Il n'y a rien de ténébreux en Dieu, il n'y a pas même la pensée du péché. Je vous lis Jérémie 7 verset 29-31, et si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre. C'est un passage où il est question de jugement et sur Israël. Et Dieu va déclarer quelque chose de très intéressant. Jérémie 7, 29, « Coupe ta chevelure, c'est ça, verset 30. « Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. » Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Donc, les Juifs avaient mis des idoles dans le temple. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Qu'est-ce que Dieu déclare? Il dit, le mal que vous faites ne m'était même pas venu à la pensée, parce que Dieu ne peut même pas penser le mal, puisqu'il est absolument lumière. Donc, Dieu n'a pas pu penser le péché en se disant, tiens, je vais susciter le péché pour ensuite me glorifier. Ça, c'est l'homme qui peut penser comme ça. Mais Dieu est absolument saint et lumière, il ne peut pas penser comme ça. Par contre, ce que nous voyons dans la Bible, c'est que Dieu nous a créés avec un certain degré de liberté. Et c'est ce qui explique le mal. C'est que les créatures de Dieu, dans leur liberté, se sont révoltées. Mais Dieu ne nous a pas créés pour qu'on se révolte, ou en se disant « tiens, ils vont se révolter ». Dieu nous a créés innocents et bons. La Bible dit en Genèse « tout ce que Dieu a créé est bon hein ». Et Dieu fit la terre et il vit que cela était bon. Chaque fois, c'est bon. Dieu ne fait que le bon. Alors, qui est l'auteur du péché? Ben, c'est évidemment l'adversaire, Satan. Mais Satan ne s'appelait pas toujours Satan. Satan, ça veut dire justement en hébreu l'adversaire. Hein, c'est un mot hébreu. Avant d'être l'adversaire, il était très certainement un chérubin protecteur. On revient à nos chérubins protecteurs. En Ézéchiel chapitre 28, nous découvrons ce jugement, là encore, sur le roi de Tyr. Et en fait, à travers le roi de Tyr, on voit qu'il est question de quelqu'un d'autre. C'est une prophétie qui va beaucoup plus loin qu'un roi humain et qu'il est question justement, verset 14. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité, anomia, vous rappelez le mot là, l'iniquité, le mystère de l'iniquité, a été trouvé chez toi. » Chez toi. C'est toi qui as commencé à te révolter. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voilà. On voit que, et on va regarder d'abord un autre passage en Ésaïe 14, qui est parallèle un petit peu, qui nous montre ce qui s'est passé un peu dans la tête du chérubin protecteur pour qu'il se corrompe et qu'il sombre dans l'iniquité. Ésaïe 14, verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, en latin, fils de l'aurore, Lucifer. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, et voilà, il nous révèle ce qu'il y avait dans la pensée du chérubin protecteur, Lucifer. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire les anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai comme Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. » D'ailleurs, le serpent dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il promet à Adam et Ève s'ils mangent le fruit? Vous serez comme Dieu. C'est le même là. Hein? Ce chérubin protecteur, c'est lui qui incarne le mystère de l'iniquité depuis le commencement de l'univers. Tout se passait bien dans le ciel, il gardait la gloire de Dieu et il reflétait la gloire de Dieu. Et un jour, et on ne sait pas après comment ça s'est passé, mais il s'est dit, mais je brille, je suis beau. Il a regardé à lui-même au lieu de regarder à la source de la gloire. Il s'est dit, je brille de toute beauté, je suis magnifique, et puis je suis au-dessus des autres anges. C'est moi le plus près de Dieu. Et l'orgueil est né à ce moment-là, dans son cœur. Et il s'est révolté, il est devenu l'adversaire. Ça, Dieu l'a précipité, hein. Il a chassé évidemment de sa gloire, il n'avait plus aucune place comme chérubin protecteur. Et il est devenu cet ange du péché, du mal. Et un certain nombre d'anges, dit la Bible, l'ont suivi, qui sont devenus les démons et qui l'aident dans sa tâche maléfique. Voilà le mystère de l'iniquité, son commencement, c'est Satan, son orgueil. Mais qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes? Ça nous apprend que le mal n'existe pas en tant que tel. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, c'est l'inverse de Dieu. Là encore, c'est le négatif de Dieu. C'est un petit peu comme si on dit les ténèbres n'existent pas en elles-mêmes. Il n'y a pas un atome de ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence d'atomes de lumière. Alors bien sûr, il y a la matière noire, il y a les trous noirs, etc. en science. Mais néanmoins, la nuit, une pièce sombre, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Les ténèbres n'ont pas de valeur en elles-mêmes. De la même façon, le mal, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est la rébellion contre Dieu. D'ailleurs, le mot péché, en hébreu comme en grec, veut dire littéralement manquer la cible, manquer le but. dans les deux langues, pour l'Ancien comme le Nouveau Testament. Et manquer le but, c'est quoi le but? La volonté, la loi de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, c'est ça. Et péché, c'est en fait ne pas obéir pleinement à la volonté de Dieu. Pour nous, les hommes, on a appris ça même des fois dans la religion d'ailleurs, hein, que péché, ce sont des actes mauvais. Donc, tu as menti, c'est un péché. C'est vrai, mentir, c'est un péché. Tu as volé. Mais en fait, on découvre dans la Bible que péché, ce n'est pas un acte seulement, c'est une attitude profonde. Une attitude de cœur qui est ancrée en nous dès la naissance, malheureusement. Et que pour être débarrassé du péché, il faut une nouvelle naissance à l'intérieur de nous. Et cette nouvelle naissance, on ne peut pas l'obtenir nous-mêmes, il faut qu'elle vienne d'en haut. Il faut que tu naisses d'en haut, que tu naisses de nouveau, dit le Seigneur. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui peut l'accomplir quand on se tourne vers Christ et qu'on lui demande pardon. À ce moment-là, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, peut pardonner, effacer, purifier nos cœurs. Sinon, le péché est trop fort, parce qu'on est en rébellion permanente contre Dieu. Même les gens qui sont généreux et très bons, hein, y a des gens sur la terre qui font des bonnes actions, qui sont très gentils. Ceux qui ne croient pas en Dieu, si vous commencez à leur parler de Jésus-Christ, de la foi, de la Bible, même s'ils sont des gens très gentils, ils vont se fâcher, parce qu'il y a toujours cette rébellion. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une rébellion contre l'Église ou les religions, parce que l'Église et les religions, dans l'histoire, n'ont pas donné le témoignage qu'elles auraient dû donner, n'ont pas montré beaucoup de Dieu. Mais il y a quand même cette rébellion envers le Créateur lui-même. Et c'est ça la racine du péché. L'orgueil est aussi à la racine du péché, le fait de dire « moi je n'ai pas besoin de Dieu, je suis mon propre Dieu ». Et il n'y a pas besoin d'être fou pour penser ça. Il y a énormément de gens, des millions de gens qui vivent comme s'ils étaient leur propre Dieu. Ils vivent comme si Dieu, le Créateur, n'existait pas. Ils disent « mais il n'y a pas de Créateur, il n'y a rien, on est là et on décide de notre vie ». En fait, on ne décide pas grand-chose. Hein. On ne choisit pas son lieu de naissance, sa famille, son pays. Il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. Mais l'homme essaye de maîtriser tout par la technologie. On essaye même de maîtriser la vieillesse, même la mort. Mais la vraie foi, la vraie humilité, c'est de reconnaître qu'il y a un Créateur, de se soumettre à son autorité et notamment à ses lois. Par exemple, le mariage, la famille, ce sont des choses que Dieu a instituées. Et la révolte, c'est de casser ça. La vie humaine est sacrée aux yeux de Dieu. Et la révolte, c'est de la tenir pour rien. Maintenant, j'aimerais parler de la révélation future de ce mystère de l'iniquité en revenant à 2 Thessaloniciens, verset 7 du chapitre 2. Le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui est celui qui le retient? Très probablement le Saint-Esprit. Il faut que la réponse soit simple parce qu'il dit « vous savez ce qui le retient ». Donc ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un truc où il faut être un savant pour le savoir. C'est quelque chose d'évident. Et l'évidence qui nous vient en premier, c'est le Saint-Esprit. D'abord parce que le mot « ce », celui qui le retient, en fait, c'est un mot masculin, pardon. Ce n'est pas ce qui le retient, c'est celui qui le retient, littéralement. Donc c'est bien quelqu'un là qui retient, et c'est le Saint-Esprit dans l'Église, dans les chrétiens, avec sa puissance surnaturelle, qui bloque encore les plans du diable, parce que Dieu veut sauver beaucoup de gens avant que le diable ait les mains libres. D'ailleurs, quand Jésus parle du Saint-Esprit comme du consolateur dans l'Évangile de Jean, il dit « je vous enverrai ce consolateur », c'est le même mot que « vous savez ce qui le retient ». Donc, il y a vraiment un parallèle avec le Saint-Esprit. En 1 Jean chapitre 4, verset 4, justement, le Saint-Esprit nous dit ceci « vous, petits enfants, Vous, chrétiens, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, l'Antéchrist, hein, il parle de l'Antéchrist, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est celui qui est en nous ? Voilà, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Et il dit, vous avez vaincu l'Antéchrist parce que celui qui est en vous est plus grand. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a vaincu l'Antéchrist, encore une fois. Hein. Donc, c'est lui qui retient la venue de l'Antéchrist. Quand est-ce que le Saint-Esprit sera retiré plus ou moins du monde ? Lorsque l'Église, les chrétiens, seront retirés du monde. Dans 1 Thessaloniciens 4, il nous parle de l'enlèvement de l'Église. Il y a un moment où les vrais chrétiens qui ont le Saint-Esprit seront enlevés, peu importe la dénomination à laquelle ils appartiennent, à la rencontre du Seigneur. À ce moment-là, le Saint-Esprit qui est dans leur cœur va être retiré aussi. Certainement, le Saint-Esprit va continuer à agir sur la terre, hein, mais il n'y aura plus cette présence sanctifiante qui retient le mal. Et quand les chrétiens seront partis, il va y avoir un déchaînement. Aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, le déchaînement. Mais imaginez quand il n'y aura plus un seul chrétien aux États-Unis, où il y en a des millions, en Chine. Les Chinois peuvent être durs, hein. Et encore, il y a des millions de chrétiens en Chine. Imaginez quand il n'y aura plus que des non-chrétiens. Il y aura un déferlement de violence, de mal, puisque l'Antéchrist, c'est l'homme du péché, de l'iniquité, du mal, c'est-à-dire tout ce qu'il pense est pour le mal. Et il va communiquer ça aux êtres humains. Il va leur dire, maintenant, pensons au mal, tout le temps. Pas de temps en temps, tout le temps. Ça existe, hein. Il y a des gens sur la terre déjà qui ne pensent qu'au mal. En permanence. Et on peut dire qu'ils sont possédés quelque part. Hein. L'Antéchrist, quand il apparaîtra, soulèvera un enthousiasme populaire parce que les vrais chrétiens ne seront pas là. Donc ceux qui vont rester vont être plus facilement séduits. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'avènement de l'Antéchrist. Il y a deux mots qui sont utilisés. Il dit « il paraîtra ». Je ne sais pas dans quel verset. Voilà, verset 8. « Et alors paraîtra l'impie ». Et c'est le mot qui a donné « apocalypse ». Il se révélera. Parce que le mot « apocalypse », ça ne veut pas dire « fléau » ou « fin du monde ». Le mot « apocalypse » en grec, ça veut dire « révélation ». Et le dernier livre de la Bible s'appelle en fait la révélation de Jésus-Christ, parce que c'est comment Jésus-Christ va revenir et établir son règne éternel. Et là, il parle d'une autre révélation, d'une autre apocalypse, c'est celle de l'Antéchrist. Et vous voyez qu'il copie Dieu en permanence. Satan, c'est le Père, l'Antéchrist, c'est le Fils. Et dans l'Apocalypse, le faux prophète, c'est le Saint-Esprit. La Trinité satanique, 666. Au lieu de 777, les trois chiffres de la perfection. Satan veut copier Dieu parce qu'il se prend pour Dieu. Il dit, c'est moi, je veux être Dieu à la place de Dieu. Hein, comme le personnage de bande dessinée Is No Good, qui veut être calife à la place du calife. C'est vraiment, d'ailleurs c'est du Moyen-Orient, c'est au Moyen-Orient que ça se passe, cette idée d'être Dieu à la place de Dieu. Et il va essayer de copier le Seigneur. Mais comme il n'est pas le Seigneur, il va devoir faire, verset 9, des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Il va devoir tricher. Christ est Dieu. Quand il y avait la tempête, il a dit à la tempête, « Calme-toi », et la tempête s'est calmée. Quand il y avait un mort qu'on lui présentait, il disait « Lève-toi », et le mort se levait. Il y avait un paralytique, il disait « Lève-toi », il marchait. Il y avait une démoniaque qui disait « Sors de cet homme » et le démon sortait. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ. Mais l'Antéchrist n'a pas ses pouvoirs. Satan a un certain nombre de pouvoirs, mais il n'a pas ses pouvoirs divins. Et surtout, Satan, tout ce qu'il a comme pouvoir, c'est de faire du mal, de détruire les gens, de les pousser au suicide, à se détruire, à se tuer, à la perversion la plus totale. Alors, comment va-t-il faire ? Il va les séduire par des prodiges mensongers. Je pense qu'il va utiliser certainement des techniques et la technologie moderne pour pour mentir, pour tricher. Vous savez que les prestidigitateurs modernes font des choses incroyables. Il y avait celui qui avait fait disparaître la tour Eiffel, n'est-ce pas ? Il faisait disparaître un autocar, il faisait disparaître des choses. Et en fait, il ne les fait pas disparaître, mais nous, quand on est spectateur, on ne les voit plus. Mais c'est une illusion, évidemment. Hein. Ce sont des illusionnistes professionnels. Et d'ailleurs, ils jouent un rôle, mais ils disent bien en privé, ils disent « je suis un illusionniste ». Mais là, ça va être plus qu'un illusionniste. Hein. C'est un illusionniste avec la puissance et la perversion de Satan lui-même. Mais il va faire des prodiges mensongers. Je parlais ce matin de ce que des studios de cinéma ont réalisé ces jours-ci aux États-Unis dans un concert. Ils ont fait apparaître un chanteur, ils l'ont fait danser sur une scène et chanter, alors que ce chanteur est mort depuis 1996. À partir de photos et d'images, ils ont recréé son corps en trois dimensions, ils l'ont projeté sur une plaque de verre, et ce chanteur s'est mis à danser et chanter sur la scène. Il bougeait, mais vraiment comme... Et quand vous regardez l'image, vous dites, bah oui, c'est lui. Et il y avait un autre chanteur qui est vivant, qui l'a rejoint, qui a chanté en duo avec lui, sauf que le premier qu'on a vu est mort depuis 1996. Et ce sont les studios de David Cameron, celui qui a fait le Titanic, hein, qui ont cette technique extraordinaire qui coûte très cher, mais que l'Antéchrist pourrait utiliser. Par exemple, pour mentir, pour tromper. Mais il n'aura pas trop de mal à tromper les gens parce que, verset 11, Dieu enverra une puissance d'égarement. Pourquoi Dieu enverra-t-il une puissance d'égarement ? Est-ce que Dieu veut que les gens s'égarent ? Non, mais ce sera un jugement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, dit le verset 12, mais ils ont pris plaisir à l'injustice. C'est-à-dire, les personnes vont s'endurcir contre Dieu. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a des fléaux terribles qui tombent et on voit bien que c'est Dieu qui est en train de juger. C'est évident. Et à un moment, il y a même les prophètes qui arrivent à Jérusalem, qui prophétisent, hein, donc qui parlent de la part du Seigneur. Ça va être exceptionnel de voir probablement Moïse et Élie là, à Jérusalem. Les caméras du monde entier vont les regarder et ils vont prophétiser contre l'Antéchrist, contre le monde impie. Et le monde pourra les voir sur Internet, sur leur iPad, sur leur télé, sur leur téléphone. On saura que c'est Dieu qui juge le monde. Et qu'est-ce que dit la Bible dans l'Apocalypse ? Les gens vont se révolter contre Dieu encore plus. Ils vont se fâcher contre lui, ils vont lever le poing contre Dieu. Ils vont s'endurcir. Et comme ils vont s'endurcir, Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Ce sera le jugement. Et ça, c'est quelque chose par rapport à l'iniquité. Quand on se livre au péché, Dieu nous livre doublement. Quand on laisse le péché prendre notre vie, il y a un jugement qui vient et qui nous pousse plus loin. Si vous regardez dans Romains chapitre 1, où il est écrit que les hommes ont refusé la vérité de Dieu, et ils ont, alors que la vérité est visible à l'œil nu, ils n'ont pas rendu grâce à Dieu, ils ont repoussé Dieu, et la Bible dit Dieu leur a envoyé aussi, hein, une puissance d'égarement, un jugement, au point qu'ils font des choses contre nature. Il parle de l'homosexualité notamment dans ce passage. Il y aura une puissance d'égarement parce que les hommes se seront aveuglés, se seront endurcis eux-mêmes. Ils ont refusé d'aimer la vérité. Et l'Antéchrist, lui, avancera masqué au début et puis il se révélera et il demandera à ce moment-là qu'on l'adore comme Dieu, que tous se plient devant lui, prennent la marque. Là encore, dans l'actualité, il y a cette banque japonaise qui permet d'avoir une marque sur la main pour, à la place du code pour retirer de l'argent. Donc, avec cette banque, vous n'avez plus besoin de faire votre code. Vous avez une marque indélébile, mais invisible, sur la main. Une sorte de tatouage électronique. Donc, ça commence. On ne pourra plus acheter ni vendre sans avoir la marque sur la main ou le front. Les choses sont en marche. Mais elles ne sont pas encore révélées parce que le Saint-Esprit retient les choses. Le mystère de l'iniquité, c'est quelque chose de terrible. Et je suis content d'appartenir à Jésus-Christ. Parce que le mystère de l'iniquité, personne ne pourra y résister. Personne sans Christ ne pourra dire, moi, ça ne fait pas peur. Parce que ceux qui disent ça, ils seront séduits. Quand ils vont voir l'Antéchrist à la télévision ou en hologramme, je ne sais pas, ils vont dire, oh, mais c'est lui qu'on attendait. C'est celui qui va résoudre tous nos problèmes. Regardez toutes ces crises, ces guerres. Où est l'homme providentiel? Il va arriver, l'homme providentiel. Mais c'est l'impie, c'est l'homme sans loi, l'homme rebelle, l'adversaire de Dieu. Et il va se faire passer pour Christ. Alors, soyons prêts. Et si ce soir, il y a quelqu'un qui n'a pas le Seigneur dans sa vie, vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus dans votre cœur, eh bien, demandez-lui, tournez-vous vers lui, parce que sinon, l'iniquité va vous amener là où vous ne voudriez jamais aller. Le péché nous emmène plus loin que ce qu'on croyait. Et on ne peut pas jouer avec lui. On va terminer par la prière. Merci Seigneur de nous révéler ces mystères et notamment l'origine du mal, cette origine qui est incarnée par Satan lui-même. Et merci Seigneur de ce que tu as vaincu Satan à la croix. Tu as vaincu le mal. Tous les princes des ténèbres sont vaincus par ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur, aujourd'hui, si nous t'appartenons, nous n'avons rien à craindre. Nous ne craignons pas l'iniquité, le mystère de l'iniquité. Nous savons que nous partirons avant tout cela, mais aussi nous savons que nous sommes scellés par le Saint-Esprit, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous prions, Seigneur, encore pour nos proches, notre prochain qui nous entoure et qui pense qu'il peut résister tout seul, n'a pas besoin de Dieu, qui vit dans la rébellion. Seigneur, nous prions que tu te révèles justement dans ton amour, que tu nous aides à partager la bonne nouvelle avec les perdus avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Merci Seigneur de ta patience, tu prolonges ton attente de revenir pour que tous viennent à la repentance. Merci Seigneur de ton immense amour pour nous. Amen. Voilà, on pourrait chanter.